France Inter, la différence.
Vous écoutez France Inter, il est 15h passé de 4 minutes tout de suite. Là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet.
Lemonde.fr d'aujourd'hui. Cure d'austérité pour la Grèce, virgule. Les marchés soulagés. Bon, ben, des fois qu'il y en a qui ont des doutes, eh bien, ils sont levés. Tu fais partie de quel camp, camarade? Les marchés ou l'autre camp?
Ton reportage est à double tranchant. D'abord, effectivement, on compatit, mais surtout, on s'aperçoit que ces gens-là, sans Moulinex, n'existent pas. En fait, Moulinex leur a tout amené, leur a tout apporté. Donc en fait, c'est un formidable reportage sur la valeur de l'entreprise.
Les élèves de l'école maternelle François Fabier à Rodez dans l'Aveyron, les élèves de l'école primaire, les parents, amis, le collectif contre la fermeture de l'école François Fabier ont le regret, la tristesse, la douleur de vous annoncer la fermeture de leur école, votée par la municipalité socialiste en place depuis 2008. Une procession d'enterrement aura lieu cet après-midi vendredi, départ à 17h devant l'école François Fabier à Rodez, procession dans les rues piétonnes, dépôt du cercueil devant la mairie. Tenue noire fortement recommandée.
Ouais, bonjour, l'équipe de là-bas, si j'y suis, je vous appelle parce que je suis en train d'écouter l'émission sur l'autodéfense intellectuelle, parce que j'écoute avec les podcasts. Et ça me fait penser à quelque chose auquel je suis confronté dans mon travail, je suis instit, et il y a beaucoup d'instits qui appliquent quelque chose que je trouve abominable, à savoir les ceintures de comportement. En fonction de son attitude, on peut prétendre à telle ou telle couleur de ceinture qui donne tel ou tel niveau de droit. Et je trouve ça horrible parce qu'on amène avec ça les enfants à invalider eux-mêmes leur attitude, à dire eux-mêmes qu'ils ne méritent pas le passage à telle ceinture, à dire eux-mêmes qu'ils ne méritent pas tel droit. Et pire que ça, dans certaines classes, c'est un conseil des enfants qui détermine si les enfants, les autres, peuvent ou non prétendre à tel ou tel niveau de droit. Alors ça me choque premièrement parce que les droits doivent être les mêmes pour tout le monde, c'est le principe de la démocratie, c'est inscrit dans la Constitution. Et ensuite parce que on met en place comme ça une espèce d'autorité complètement absolue, mais pas incarnée du tout, et l'enfant ne peut pas vivre la sanction comme arbitraire, alors que la sanction est toujours arbitraire. Et moi j'ai tendance à penser, même si je me pose des questions sur ma pratique, qu'on a le devoir de montrer aux enfants que le pouvoir qu'on a sur eux en tant qu'adultes est arbitraire, et qu'on a le devoir de les laisser considérer qu'on est injuste avec eux, qu'on les emmerde, alors à leur demander d'appliquer des règles, etc., plutôt que de leur confronter une espèce de loi morale déterminée plus ou moins par tout le monde. Enfin voilà, j'ai du mal à en parler calmement parce que c'est quelque chose qui m'aime beaucoup, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait disparaître. Et j'incrimine pas les enseignants qui l'appliquent parce que tout le monde cherche des solutions, et je pense qu'ils font une erreur, que c'est pas malveillant de leur part, mais qu'il faudrait vraiment que ça disparaisse. Voilà, merci pour vos émissions.
Ah, merci pour ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, ben, c'est le rendez-vous mensuel avec l'équipe du Monde Diplomatique. Comme chaque mois, nous nous retrouvons. Et pas n'importe où, puisqu'on se retrouve à la Java. Désormais, autant que possible, on se retrouvera dans ce dancing, ce vieux dancing parisien, au 105 rue du Faubourg du Temple à Paris, pour enregistrer en musique. Vous allez entendre Médéric Collignon qui nous accompagne. Et aujourd'hui, l'équipe du Diplo, c'est Akram Belkaïd, c'est Maurice Lemoine, c'est Tristan Coloma, c'est Evelyne Pieler et Serge Alimi. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe, merci pour vos reportages de qualité. Je croyais que le 1er mai était la journée des travailleurs. C'est d'ailleurs la seule journée chômée reconnue dans notre convention collective, celle du transport aérien personnel au sol. Eh bien, figure-toi que dans notre entreprise qui transporte du fret, le personnel de Roissy qui trie les colis se verra obligé de venir travailler le 1er mai, alors que ce n'est pas un service public. Rien ne justifie pourtant de faire venir travailler des salariés le 1er mai, si ce n'est le profit. Et d'ailleurs, l'entreprise américaine pour laquelle je travaille a obtenu une dérogation permanente du préfet pour ce jour-là et pour d'autres.
Quelle belle interview de M. Patrick Puy, alias Pépé, alias Presse Purée. Ce monsieur ambulancier sur qui l'on tire, c'est terrible. Mais si vous vouliez avoir des nouvelles récentes de M. Puy, il fallait venir nous voir. Nous, c'est des gens de TDF. PDF où il y a un joli petit plan social aussi qui se déroule en ce moment. Alors avant de venir interviewer les suicidés, les malades du Tranxène et du Lexomil, eh ben, vous pouvez venir nous voir. Ça se passe pas très bien. Enfin, il paraît qu'il y a du dialogue social, mais c'est spécial. Venez nous voir, on vous expliquera. Allez, à bientôt.
Le prochain repère aura lieu au poulailler à Bègles, place du 14 juillet, le mercredi 5 mai à partir de 19h. Après les émissions des 12 et 13 avril derniers, Italie, Padani, le laboratoire du pire, nous parlerons en relation avec l'association De Là-Bas et D'Ici, des politiques migratoires en Italie et en France, des effets de l'espace Schengen et de ce que nous voulons en matière migratoire. Venez nombreux.
Oui, bonjour, c'est Eric de Gérardmer dans les Vosges. Donc c'était pour vous dire que demain, bien sûr, il y avait la fête des travailleurs et notamment la manifestation à Épinal, le matin à 10h, et que l'après-midi, il y avait une grande fête de la solidarité à Gérardmer, organisée par le comité contre le racisme, avec un conférencier qui parlera de l'islamophobie, Olivier Courgrand-Maison. Et voilà, donc je voudrais dire aussi que suite au dernier Café Mermé, on a mis sur pied une association pour lutter contre les dérives sécuritaires, et notamment contre ce système dit des voisins vigilants. Voilà, restons fermes et ciao, bye, bonne journée.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec le monde diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from...
C'est Médéric Collignon qui va nous accompagner tout au cours de ce deuxième rencontre du Diplo à la Java à Paris. Je voudrais évoquer un souvenir. Certains d'entre vous se souviennent peut-être des matchs de catch qu'on avait jadis au temps de l'ORTF le vendredi soir et où s'illustrèrent des noms comme celui de l'Ange Blanc ou du bourreau de Béthune. Et alors, ce qu'on a découvert peu à peu, c'est que c'était du chiquet. C'est que c'était pas vrai. Douaneau avait fait une photo remarquable de ces deux catcheurs qui buvaient un coup au bistrot du coin de l'Élysée-Montmartre et qui ensuite allaient se battre. Et on peut faire un rapprochement entre ça et la politique, c'est-à-dire du chiquet. Des gens qui sont un petit peu comme ça, le bon, le méchant, mais qui finalement se retrouvent au bistrot chaleureusement. C'est ce qui se passe un petit peu en Angleterre actuellement, Royaume-Uni actuellement, si l'on en croit ce que dit Serge Halimi dans son éditorial de ce mois-ci. Mais il s'est passé quelque chose quand même, c'est que le catch en France a perdu complètement de son attrait pour les spectateurs. C'est que ces catcheurs n'ont pas su se renouveler, n'ont pas su changer de style, n'ont pas su incorporer les différentes époques. Or, il semblerait, toujours selon cet édito, que l'Angleterre actuellement tourne une page et s'adapte, on va dire, à l'ère du temps, sinon à l'histoire du temps. Serge Halimi, une page se tourne au Royaume-Uni.
Quand on assiste aux élections britanniques, enfin quand on écoute les débats qui se déroulent, on peut avoir le sentiment, pas tout à fait injuste, qu'en fait il oppose l'équivalent en France de Jacques Delors, Édouard Balladur et François Bayrou. Donc c'est pas absolument passionnant. Et les débats, il est vrai que parfois il faut tenir les 90 minutes. Mais en même temps, il y a quand même plusieurs éléments qui méritent de retenir notre attention à ce sujet. C'est d'abord le fait que la majorité pourrait changer au Royaume-Uni, la majorité parlementaire. On a eu une longue ère conservatrice avec Margaret Thatcher de 79 à, à 97, et puis après on a eu Margaret Thatcher et John Major, et puis après on a eu les travaillistes depuis 97, et là il est possible que les travaillistes soient chassés du pouvoir. Ils sont même en mauvaise position dans les sondages qu'on a pu constater ces derniers temps. Donc ça, c'est le premier élément, le changement de majorité possible. Le deuxième élément, c'est qu'il est aussi envisageable que cette fois-ci, il n'y ait pas de majorité au Parlement. Jusqu'à présent, le système électoral est tellement injuste qu'il accorde une majorité presque automatique au parti qui est arrivé en tête, même quand il est arrivé en tête de très peu, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je crois, les travaillistes ont une majorité de 60 sièges, alors qu'ils n'ont obtenu que 21% des suffrages de l'électorat. C'est une performance. Là, il est possible qu'aucun des partis n'ait une majorité et qu'on aboutisse à une autre performance qui serait de voir le parti qui arrive en deuxième position obtenir deux fois moins de sièges que celui qui arrive en troisième position. Et le parti qui arrive en troisième position, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est un peu difficile, qui se retrouverait quand même en position de former le gouvernement. À l'heure actuelle, il n'est pas impossible que les travaillistes forment le gouvernement, même s'ils arrivent en troisième position, en bénéficiant du soutien des parlementaires du Parti libéral-démocrate, qui, lui, se serait retrouvé en deuxième position. Parce que c'est un système électoral qui dit que le candidat qui arrive en tête dans une circonscription, il n'y a pas de deuxième tour, il obtient le siège. En d'autres termes, si vous êtes très bon dans tout le pays, mais que vous êtes toujours deuxième, vous n'obteniez rien.
Très bien, c'est clair.
C'est un système qui, d'ailleurs, je crois, inspire la droite française, qui envisagerait de passer à un système de ce type pour s'assurer qu'elle aura une majorité, parce qu'elle est, pour le moment en tout cas, plus unie que la gauche. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est intéressant. Il pourrait ne pas y avoir de majorité au Parlement britannique et un gouvernement de coalition. Et le troisième élément qui est plus intéressant encore, à mon sens, c'est que le discours politique au Royaume-Uni a un peu changé, qu'on a l'impression que les conservateurs ne se réclament pas trop de Margaret Thatcher, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, et qu'au même moment, les travaillistes ne se réclament pas trop non plus de Tony Blair, pour les raisons qu'on peut imaginer aussi, et en particulier la guerre d'Irak. Et on a même ce paradoxe, moi, qui m'a frappé quand j'étais à Londres, parce que je voyage moins loin que vous, donc je n'ai été que de l'autre côté de la Manche, c'est ces affiches où on voit le Premier ministre britannique, Gordon Brown, souriant, alors qu'il ne sourit jamais, il a même la réputation d'être plutôt revêche, souriant, qui dit, enfin, il y a une phrase de lui, en tout cas, qui semble être une phrase de lui, « J'ai accru l'écart entre les riches et les pauvres, laissez-moi continuer, votez conservateur ». Bon, en fait, c'est évidemment une affiche des conservateurs qui reproche aux travaillistes d'avoir accru l'écart entre les riches et les pauvres. Alors, il faut dire, c'est tout à fait vrai. Ils ont accru l'écart entre les riches et les pauvres. Et quand ils ont pris le pouvoir, ils l'ont pris des mains de Major et de Thatcher, qui, vous l'imaginez, avaient déjà fait un certain travail en ce sens. Mais quand les travaillistes sont arrivés au pouvoir, les 1% les plus riches au Royaume-Uni avaient 17% de la fortune nationale. Et après un peu plus de 10 ans de règne travailliste, les 17% sont devenus 21%. Donc les 1% les plus riches obtiennent 21% de la fortune nationale. Alors il est évidemment paradoxal que les conservateurs reprochent aux travaillistes d'avoir accru les écarts de fortune. Et c'est l'un des paradoxes de cette campagne qui montre que, en quelque sorte, ce socle libéral pur et dur est en train de craqueler, que les conservateurs signalent que, certes, il faudra faire des coupes sociales draconiennes parce que le budget est très déficitaire, mais qu'ils vont protéger le système de santé. Et les travaillistes qui commencent maintenant à dire, d'abord, qu'ils sont travaillistes et pas néo-travaillistes, du temps de Tony Blair, on parlait sans arrêt de New Labour. Là, on parle moins de New Labour, on parle de Labour tout court, comme s'il y avait une volonté de revenir aux sources. Et ces travaillistes, donc, parlent de politique industrielle, d'intervention de l'État, tout un discours qui semblait avoir été balayé par 20 ans ou 25 ans de Thatchero-Blairisme et qui réapparaît à la surface. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la révolution est en marche au Royaume-Uni. Elle n'est d'ailleurs pas tellement en marche
mais
ailleurs,
si je comprends,
ailleurs non plus.
Le modèle britannique, c'est fini.
Mais disons que cette espèce de modèle britannique d'une droite très dure, très ultralibérale et d'un parti travailliste qui voulait montrer qu'il serait encore plus pro-capitaliste que la droite semble ne plus avoir le vent en poupe, sans doute parce que la situation britannique, économique et sociale est particulièrement mauvaise, que c'est un pays qui avait tout misé sur la finance et qui a pris de plein fouet l'effondrement de septembre 2008.
Alors quand je dis que le modèle britannique c'est fini, est-ce que ça va être le modèle pour la France ?
Ben, disons que ce qui va se passer, ce qui se passe déjà en France, mais ce qu'on observe au Royaume-Uni, c'est un discours qui est plus sur le ton de « il faudra couper dans les dépenses sociales, mais c'est pas que ça nous fasse plaisir, c'est qu'on est obligé ». Avant, il y avait une espèce de revendication d'ébriété dans les coupes sociales en disant « ça suffit, l'assistana, il faut se débarrasser de ça, il faut célébrer les entrepreneurs ». Là, on dira « oui, l'État devrait aider ceux qui en ont le plus besoin, évidemment ». Malheureusement, il n'y a pas un centime. Donc, il va falloir tailler à la hache dans les dépenses sociales. Alors, quant au fond des politiques, ce n'est pas une différence fondamentale. Mais on sait que, parfois, les politiques, c'est aussi du discours politique et qu'à terme, le discours politique peut avoir un impact et que quand la légitimité d'un certain discours s'effondre, eh bien, la politique elle-même peut être plus facilement remise en cause.
Des questions sur ce qui se passe chez nos voisins d'outre-Manche ?
Bonsoir. J'aurais voulu demander à Serge Halimi, selon lui, sur quoi va se jouer vraiment l'élection en Angleterre, s'ils ont l'insécurité ou quelque chose comme ça qui peut faire bouger les masses
dans
les
urnes. Ils n'ont pas la burqa, eux, c'est vrai.
Ils n'ont pas la burqa.
Difficile de vous répondre. La vérité, c'est que le discours des candidats est assez difficile à distinguer. À ceci près, tout de même, que le Parti libéral-démocrate s'est opposé à la guerre en Irak, à la différence du Parti travailliste, qui a été vraiment, comme on dit un peu vulgairement, mais c'est vrai, le caniche de George Bush. Et à ceci près aussi que sur la question des libertés publiques, le Parti libéral-démocrate est beaucoup moins répressif que le Parti conservateur, qui est de loin le plus répressif, et que le Parti travailliste, qui est lui aussi particulièrement répressif, puisque je crois que je citais dans mon éditorial le fait que depuis que Tony Blair et Gordon Brown sont devenus Premier ministre, il y a eu plus de 1000 délits nouveaux qui sont devenus passibles de prison. Donc il y a eu une véritable ébriété répressive pendant cette période et les conservateurs, naturellement, estiment que ça n'est pas assez. Les seuls qui essaient de réduire un peu cette orgie sont les libéraux-démocrates. Pour le reste, la question qui se pose, c'est la question des services publics. Et les travaillistes ont tendance à être de meilleurs défenseurs des services publics, ce qui est un petit peu paradoxal compte tenu du fait que Tony Blair n'en était pas le défenseur quand il était Premier ministre, que les conservateurs et que les libéraux-démocrates réunis. Et le dernier sujet, qui est un sujet qui mobilise beaucoup les Britanniques et sur lesquels il y a de vraies distinctions, tient au scandale des dépenses parlementaires, qu'on a suivi, j'imagine, même ici, puisque près de la moitié des députés avaient pioché dans le trésor public pour faire des travaux d'intérieur dans leur résidence secondaire ou des dépenses de ce type. Il y en avait même un qui avait des canards dans sa résidence secondaire et qui voulait les protéger des prédateurs pendant leur sommeil, donc qui avait construit, évidemment aux frais du contribuable, une petite cabane en bois qui devait flotter pour protéger les canards pendant la nuit. Et la révélation de ces scandales a beaucoup contribué à disqualifier la classe politique dans son ensemble. Comme les libéraux-démocrates, depuis presque la nuit des temps, se sont toujours retrouvés en troisième position et n'ont jamais formé le gouvernement, ils ont été moins associés que les conservateurs et que les travaillistes à ce scandale, ce qui explique peut-être que, d'une certaine manière, ils ont le vent en poupe.
Bon, Médéric Collignon, allons-y.
Voilà, j'irai un peu voyager.
Merci.
Comme en Suisse.
On continue avec le monde diplomatique, pas si diplomatique que ça, de ce mois de mai. Et on part en Chine avec Tristan Coloma. En Chine et en Afrique à la fois. On a eu beaucoup de reportages et de sujets sur la présence de plus en plus marquée et remarquée de la Chine sous différentes formes en Afrique. Mais on sait beaucoup moins de choses sur l'Afrique, ou du moins les Africains présents en Chine, et notamment à Canton, dans un quartier qu'on appelle Chocolate City. Et Tristan Coloma, qui est là, va nous en dire plus.
Alors, ils sont entre 20 000 et 100 000. 100 000 si l'on compte tout simplement les clandestins, les irréguliers, qui forment quand même un bataillon important en fait de ces Africains en Chine. Et pour cause, puisque les visas sont de plus en plus difficiles à obtenir, puisque le gouvernement chinois essaie d'endiguer en fait ce phénomène qui est émergent, mais qui prend énormément d'ampleur, puisqu'on constate en fait entre 30 et 40% d'augmentation de la population africaine en Chine, et principalement à Canton, donc région industrielle du sud de la Chine.
Mais est-ce que c'est un rapport avec la présence de la Chine en Afrique ? Est-ce que c'est un échange de bons procédés, ou bien est-ce que c'est une immigration qui ressemble à celle de l'Afrique vers l'Europe ?
Alors, les frontières étant bouclées, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, les Africains se tournent vers la Chine, tout simplement parce que c'est un bon moyen de faire des affaires. C'est-à-dire que les Africains qui se rendent en Chine n'y vont pas pour trouver du travail, mais pour essayer de faire du commerce. Et effectivement, la région de Canton, qui est quelque part vraiment l'atelier du monde, permet donc à ces Africains de trouver tous les produits qu'ils peuvent exporter ensuite vers l'Afrique.
D'accord. Est-ce que ça marche ?
Alors, pour l'instant, comme c'est un phénomène émergent, on a pu constater qu'il y a malheureusement plus de problèmes pour les Africains que de réussites. Mais par contre, les réussites sont quand même vraiment spectaculaires. Comme en témoignait justement un commerçant que j'ai rencontré à Canton, il est plus facile de capitaliser 100 000 euros en 5 ans en Chine que d'économiser 5 000 euros en France pendant 25 ans.
Alors, ils viennent d'où ces Africains ? D'Afrique de l'Ouest, de partout ?
Principalement d'Afrique de l'Ouest, puisque le gros contingent en fait, d'Africains à Canton sont des Nigérians, et ensuite des Maliens, des Guinéens, des Camerounais. Donc voilà, c'est plus principalement d'Afrique de l'Ouest.
Donc ils importent ces marchandises vers leur pays.
Oui.
Quel type de marchandises ?
Des produits de manufacture, des produits d'industrie légère. Donc ça va de la simple brosse à dents aux cheveux, en passant par les mobilettes et les groupes électrogènes. Parce qu'on sait évidemment qu'il y a des gros soucis en approvisionnement d'électricité en Afrique. On trouve de tout à Canton, et même des Africains.
Alors quel est leur intégration. Le Chocolate City, c'est une connotation un petit peu... Ça peut être vu comme un peu méprisant ou...
Alors, curieusement, si on a parlé d'intégration, on a quand même une impression que dans le quartier même donc de Chocolate City, les Africains qui sont représentés là-bas, en fait, s'intègrent, puisqu'on a même vu des mariages mixtes, des enfants métis. Alors que finalement, la présence des Africains dans cette région ne remonte qu'à 2001. Alors, pour certains, ces mariages sont l'occasion, en fait, d'obtenir facilement des papiers. Mais bien sûr, l'amour ne s'arrête pas à la couleur.
Ça, c'est une belle conclusion pour cette séquence-là. Est-ce que vous avez des questions ? Ça vous tente ? Oui, madame ?
Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les catégories sociales ?
Alors, il n'y a pas que des commerçants, c'est une bonne question. Il n'y a pas que des commerçants, il y a aussi des étudiants et des professeurs d'anglais. Pourquoi des professeurs d'anglais ? Tout simplement parce que ça coûte moins cher aux écoles privées chinoises d'embaucher un Africain d'Afrique plutôt qu'un Afro-Américain. Ensuite, il y a bien sûr, parmi les étudiants, un peu de tout. Mais dans cette catégorie... Il y a beaucoup d'enfants qui viennent de situations sociales plutôt élevées, voire même de familles dirigeantes africaines. Et pour les commerçants, on a des aventuriers qui ne sont pas forcément qualifiés, qui n'ont pas fait d'études. Pour beaucoup, ils ne parlent pas chinois d'ailleurs. Leur langage est souvent celui de la calculette avec les Chinois. Et par contre, contrairement à une grande vague, enfin aux migrants auxquels on est habitué, j'allais dire, malheureusement, enfin c'est-à-dire que je vais peut-être reprendre.
Les migrants auxquels on est habitué, malheureusement.
Donc, comme je disais,
C'est fou de dire qu'on est peur d'une phrase quand même. Ça, ça en dit long, n'empêche.
Les autres commerçants qui sont présents en fait sur place sont des Africains qui ont déjà en fait migré dans notre pays, qui sont qualifiés. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve assez peu dans d'autres types de migration.
Mais quel est l'accueil ? Est-ce que on voit que dans la population, il peut y avoir une certaine intégration, mais de la part des autorités, ils sont bienvenus. Il y a des tapis rouges qui les attendent à la sortie de la descente de l'avion à Canton, ou bien c'est plus méfiant ?
Ils sont bienvenus à partir du moment où ils rentrent chez eux. On pourrait synthétiser ça comme ça, c'est-à-dire que pour l'instant, les visas ont une durée de validité de 30 jours.
Ouais, c'est court quand même.
Donc on comprend bien qu'à partir de ce moment-là, les Africains, normalement, ne sont pas là pour rester et beaucoup ne sont pas résidents, mais sont de passage.
Ok, merci. Médéric, l'Afrique, allez. Magnifique, donc t'as plus besoin de trompette. On continue avec le diplo du mois de mai et Maurice Lemoine, que le public a reconnu et qui est à ma gauche. Et ce mois-ci, Maurice Lemoine, tout comme Éric Besson, dont on a évoqué dans la séquence précédente, s'intéresse à l'identité, aux mobilisations identitaires. Et ça, c'est le dossier du diplo de ce mois de mai. Et Maurice Lemoine nous explique quelque chose sur ces mobilisations identitaires qui tantôt agrègent et tantôt désagrègent.
Ça y est,
vous avez fini. Donc, il y a des questions.
Vous avez dit l'essentiel, en quelque sorte. Bon, Éric Besson n'a pas pu venir ce soir. On le regrette beaucoup. Alors c'est vrai que dans ce dossier mobilisation identitaire, on l'a fait parce que le thème des mobilisations identitaires commençait à nous fatiguer. Hein, effectivement, ce débat absurde lancé par Éric Besson. Donc comme on a l'esprit de contradiction, on a dit ça nous fatigue, donc on va faire un dossier. Et alors il nous emmène, Akram vous parlera tout à l'heure d'Abu Dhabi, il nous emmène aussi dans une région très étrange, au fin fond du Pakistan, avec des Kalachs qui se prennent pour les descendants d'Alexandre le Grand. Bon. Et en fait, on découvre, après avoir lu l'article, je ne vais pas vous dire la fin, mais je vous le dis quand même, que s'ils défendent, et c'est une des raisons essentielles pour laquelle ils se rattachent d'une manière assez farfelue, semblerait-il, à Alexandre le Grand, c'est tout simplement pour défendre la culture de la vigne et la culture du vin, qui évidemment au Pakistan pose quelques problèmes avec l'entourage. Et puis on s'est penché sur le sort des Indiens d'Amérique latine, ou des Amérindiens, ou des Autochtones, il y a pas mal de dénominations. Et d'une certaine manière, effectivement, par certains côtés, on vient un petit peu en contradiction avec un discours qui, finalement, considère les Indiens d'Amérique latine systématiquement dans un statut de victime, et en fait observé par des indigénistes qui leur veulent du bien. Or, en fait, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Par exemple, est-ce qu'il y a eu mobilisation identitaire au moment de la conquiste, de la conquête ? Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir comment les Espagnols, une poignée de conquistadores, ont réussi au bout du compte, à conquérir un continent? C'est tout simplement parce que lorsque Hernán Cortés est arrivé au Mexique, enfin c'est ce qu'allait devenir le Mexique, cette région du monde était dominée par un empire théocratique, les Aztèques, qui avaient réduit sous leur domination un certain nombre d'autres peuples, d'autres tribus, et que lorsque Hernán Cortés est arrivé dans cette région du monde, le cacique des Totonacs lui a offert des femmes couvertes d'or, bon ça encore passe, mais également 400 porteurs. Et puis, de la même manière, et pour les mêmes raisons, Taxlacala a fourni 100 000 supplétifs à Hernán Cortés pour aller attaquer les Aztèques. On a eu le même phénomène un petit peu plus au sud, au Guatemala, où Pedro de Alvarado a pu s'appuyer sur les Caciques qui étaient en lutte contre les Quichés. Et puis au Pérou, de la même manière, Pizarro a reçu le concours des Canards, des Cahuachihuayapas et des Huanca et d'autres pour venir à bout de l'Empire Inca. Alors c'est vrai que l'affaire, au bout du compte, au terme de ces désunions, de ces alliances tragiques, c'est évidemment très mal terminé pour les indigènes, puisqu'on a eu affaire en Amérique latine à un ethnocide, enfin l'Amérique qui n'était pas encore latine, mais à un ethnocide. Et d'une certaine manière, au bout de la conquiste, lorsque sont arrivées les indépendances, les indigènes étaient des survivants. Manque de chance, la naissance des républiques n'a pas considérablement amélioré leur sort. Il y a d'ailleurs une phrase assez intéressante de Bolivar au congrès d'Ayacucho qui a lancé « Nous ne sommes pas Européens, nous ne sommes pas Indiens, nous sommes autre chose ». Sauf qu'effectivement, il restait quand même ces survivants indigènes. Donc victimes, ils l'ont été, victimes, ils demeurent. Et comme ils sont victimes, effectivement, de l'histoire, ils passionnent, pas toujours d'ailleurs, mais enfin ils passionnent les journalistes, les écologistes, les droits de l'homiste, les mermétistes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Or, quand on regarde aujourd'hui, l'Amérique latine, elle est essentiellement métisse. Il y a 45 millions d'indigènes, ça représente environ 10% de la population, qui sont souvent en conflit avec leurs concitoyens, puisqu'on a des États nationaux. Mais il s'agit de conflits dans lesquels, assez paradoxalement, les acteurs sont parents. Parce que le processus de métissage est tellement avancé que la frontière devient très difficile à tracer entre qui est indigène, qui ne l'est pas. Il y a des pays comme l'Équateur, par exemple, où le dernier recensement, on ne sait pas trop en fait s'il y a 20% d'indigènes, 40% d'indigènes, 45% d'indigènes, chacun à un moment ou un autre tirant les chiffres de son côté. Et c'est vrai que si les indigènes demeurent effectivement les principales victimes, parce qu'ils sont toujours marginalisés, il faut le dire, il y a aussi en Amérique latine des dizaines de millions de métis qui sont tout autant victimes des politiques sociales désastreuses, qui sont tout autant victimes de marginalisation. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils intéressent beaucoup moins que les Indiens dans la presse. Ensuite, quand on regarde les Indiens en tant que tels, ça n'existe pas. Il y a évidemment des catégories, des différences, des moments, des périodes. Il y a toujours eu un débat, dans les mouvements indigènes en particulier, sur que faisons-nous avec les autres. Bon. Et on a toujours eu deux grands courants. Il y a un courant, par exemple, dans la Confédération nationale des indigènes d'Équateur, qui est le mouvement indigène le plus puissant d'Amérique latine. On a un courant, un pôle classiste de lutte des classes, et puis, qui est surtout dans les hautes terres, et puis un courant plus ethniciste qui, lui, se trouve en Amazonie. Ça, d'ailleurs, c'est une constante, c'est la même chose en Bolivie. Si vous prenez la Bolivie, ce qu'on appelle le catharisme, qui vient du nom d'un leader indigène du XVIIIe siècle, là encore, on a une fraction qui est fondamentaliste, qui est itepriste, qui est rétrograde, qui veut reconstituer ce qu'on appelle le Colasuyo. Alors, le Colasuyo, c'était l'ancien empire des Incas. Alors, vous avez des gens, je pense en particulier à un indianiste charmant, d'ailleurs, au demeurant quand on le rencontre, qui, au moment où Evo Morales élaborait sa nouvelle constitution, disait, lui, on a une contre-proposition. Notre loi constitutive dit qu'il faut exécuter tous les Blancs parce qu'ils ont commis le plus grand des crimes, l'invasion de l'Amérique. Bon. Ouais. C'est un peu raide. C'est un peu raide.
N'empêche que les Aymara et les Quechua en Bolivie ont joué un rôle très important au point d'élire Evo Morales.
Evo Morales.
Et donc, de contribuer à son élection, en tout cas.
Evo Morales,
et à son succès, sans souci de classe.
Laissez-moi parler, même. Mais Evo Morales appartient, lui en particulier, à ce qu'on pourrait dire ce courant national populaire qui, sans rien abandonner des revendications indigènes, fait le lien avec le reste de la population.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il a un discours national populaire indigéniste, ouais. Et non pas un discours indigéniste. Et il est en combat féroce, d'ailleurs, avec les indigénistes. Alors, vous venez de le souligner, les rapprochements sont souvent un peu... ils sont difficiles, ils sont chargés d'incompréhension réciproque. Néanmoins, dans les années 60-80, les luttes indigènes se sont rapprochées des mouvements populaires et surtout dans le cadre des luttes paysannes, puisque la majorité des indigènes étaient paysans, ce qui est en train d'ailleurs de se modifier. Ça n'a pas été couronné de succès, il faut le dire, parce que, en particulier, la gauche latino-américaine a toujours eu une difficulté à comprendre ce qui se passait avec les Indiens. C'est-à-dire que, dans sa volonté de tout ramener à la lutte des classes, on a évidemment minoré le phénomène de la culture indigène, le phénomène de l'histoire indigène. En même temps, le survaloriser mène aussi à des catastrophes. Donc le problème, c'est un équilibre fragile en suivant des périodes. Dans les périodes de crise, dans les périodes de désarroi, les indigènes se replient sur leur culture. dans des périodes où les luttes se développent d'une manière plus consensuelle, on les retrouve à la tête du combat, et en particulier, évidemment, la mondialisation a été un moment particulièrement important, les années 90, parce qu'elle a porté en elle la désagrégation des mouvements traditionnels, c'est-à-dire les syndicats, les mouvements sociaux ont été complètement désagrégés par la mondialisation. Par ailleurs, les partis politiques, les formations habituelles étaient complètement déconsidérées. Et on a vu à ce moment-là, effectivement, un courant indigène qui a été le fer de lance des luttes contre la globalisation. Le meilleur exemple, ça a été l'apparition des zapatistes en 1994, hein, avec et Marcos. Oui. Et je reprends une citation, parce que là encore, on n'est pas dans une lutte ethnique. C'est-à-dire que nulle part on ne revendique l'indépendance. C'est un des premiers communiqués de l'armée zapatiste. Notre marche armée d'espérance n'est pas contre le métis, elle est contre la race de l'argent. Elle n'est pas contre une couleur de peau, sinon contre la couleur de l'argent. Elle n'est pas contre une langue, sinon contre le langage de l'argent. Donc voilà, ça pose évidemment beaucoup de problèmes de gestion difficile. En particulier, qu'est-ce qu'on appelle des peuples indigènes ? Puisqu'on parle de peuples indigènes. Or, évidemment, le mot « peuple », en particulier depuis la décolonisation, a une connotation importante qui, en particulier, amène à penser immédiatement à l'autodétermination. Hein ? Mm-hmm. Or, on est dans des États nationaux. Alors, chacun a sa définition de ce que sont les peuples indigènes. Je ne vais pas vous les lire. Il y a 247 pages de convention internationale.
Oui, hein, fais confiance.
Oh, d'accord. Bon. Mais le texte qui fait référence, qui est la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, a stipulé que l'emploi du terme « peuple » ne peut en aucune manière être interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s'attacher à ce terme en droit international. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté internationale et évidemment les États nationaux ne veulent pas entendre parler d'autodétermination. Or, il y a une contradiction, c'est que les indigènes considèrent le territoire comme la base de leur culture, ont toujours défendu le territoire comme l'endroit où ils estiment avoir le droit de vivre en respectant leurs coutumes, leurs traditions, en parlant leur langue, ce qu'ils continuent à faire, et y compris en contrôlant les ressources du territoire. Ce qui pose un problème par rapport aux États nationaux. C'est-à-dire que, évidemment, les indigènes luttent, à juste titre, partout, contre les multinationales qui arrivent, en particulier en Amazonie, pour exploiter le pétrole, pour exploiter le gaz, qui ravagent l'environnement, qui détruisent les marais, qui mettent du mercure dans la flotte. J'en passe et des meilleurs, vous voyez ce que je veux dire. En même temps, le problème devient plus difficile à gérer pour les États nationaux dès lors que les indigènes interdisent ou souhaitent interdire l'exploitation des ressources naturelles. Or, on a un certain nombre d'États qui, c'est vrai, lorsqu'on est dans une période particulièrement conservatrice, sont complices des multinationales. Ils ne tiennent pas compte des populations, et y compris en particulier ne font pas bénéficier les populations indigènes des bénéfices récoltés de l'exploitation des ressources naturelles. Mais on a aussi des périodes comme celle qu'on vit en ce moment, en Équateur, en Bolivie, au Venezuela, où le gouvernement national, dans un projet de développement social, met les ressources naturelles qu'il est en train de renationaliser au service d'un projet commun. Et donc là, il y a parfois des contradictions extrêmement fortes. On le voit en ce moment en Équateur, où il y a un conflit entre la CONAI et le président Rafael Correa, où... Et là encore, mobilisation identitaire, oui ou non, on va voir. Mais d'une certaine manière, la CONAI a appelé au soulèvement. Or, il apparaît actuellement que les Indiens ne vont pas suivre cet appel au soulèvement, qui intéresse surtout les Indiens d'Amazonie. Mais les Indiens équatoriens de la Sierra, les Indiens équatoriens des montagnes, eux, sont plus intéressés par le projet national intégrateur du président Rafael Correa que par la défense stricto sensu des ressources. Bon. On a aussi des cas plus compliqués. Évidemment, on est tous émus, à juste titre, par l'injustice qui est souvent faite aux indigènes. Mais lorsqu'on voit, comme dans les années 80 au Brésil, plusieurs milliers de paysans non-indiens qui sont arrivés, poussés par la misère, par la transamazonienne, et d'un seul coup qu'on expulse d'un territoire de 200 000 km², qu'on va donner à 46 familles indigènes, qu'on vient de découvrir dans la forêt, ça pose évidemment des problèmes. D'abord, ces paysans haïssent les indigènes, évidemment. Donc le jour où les indigènes ont besoin d'aide, c'est fini. Et par ailleurs, on répare une injustice en commettant une autre injustice. Étant entendu que la solution à ce problème, c'est évidemment une réforme agraire qui, à la fois, permettrait aux paysans de vivre décemment dans des endroits qui ne soient pas la forêt amazonienne et donc de ne pas pénaliser les Indiens qui sont les derniers de la chaîne. Donc, en fait, voilà les thèmes autour duquel on a tourné dans cet article du Monde diplomatique. Je conclue un peu rapidement parce que je sais ce qui va se passer. Vous allez couper.
Mais non. Non, mon cher Maurice.
Thank you.
Médéric Collignon à la trompette, en direct à la Java avec l'équipe du Monde Diplomatique. On continue dans une autre partie du monde avec Akram Belkaïd. Et là, on va dans les Émirats Arabes Unis qui sont saisis, nous dit le Monde Diplomatique, par la fièvre nationale. Et effectivement, les Émiratis, les habitants de ces Émirats, sont minoritaires dans leur propre pays. À Abu Dhabi ou à Dubaï. Dubaï, je crois savoir, c'est à peu près 20%. Ils ne sont pas plus de 20% de la population.
Oui, c'est entre 15 et 20%.
15 et 20% de la population, alors que les travailleurs d'origine de l'Inde, notamment beaucoup, la plupart du Kerala, sont 50% de la population.
Pratiquement, oui.
Voilà. Alors, c'est difficile de dessiner une identité quand on est minoritaire dans son propre pays.
C'est très difficile, surtout quand le pays se développe à grande vitesse et que les projections les plus réalistes tablent sur une diminution de la part des nationaux. C'est-à-dire que si on reste dans la tendance actuelle, dans 20 ans, les Émiratis seront 10% de la population de leur pays. Donc ça crée des problèmes existentiels, ils se posent des questions et ça se traduit.
Ils sont les 20% les plus riches.
Bien entendu.
Oui, c'est pas des pauvres Émiratis.
Non, non, non. Ce sont
la manche.
Non, mais ce n'est pas les plus pauvres, mais ils ne sont plus tous aussi riches qu'avant, parce qu'il y a tout de même une pyramide sociale, y compris chez les nationaux. Mais c'est surtout ce sentiment d'être finalement encerclé, d'être dilué dans la masse des travailleurs étrangers qui viennent contribuer au dynamisme de leur pays. Et donc c'est un débat on a traité des Émirats Arabes Unis, mais c'est une question qu'on retrouve dans toutes les autres pétromonarchies de la région. C'est un débat qui existe à Bahreïn ou au Koweït ou au Qatar. On a toujours cette situation de minorité qui se pose des questions et qui se demande de quoi l'avenir va être fait, dans la mesure où, sur le plan démographique, de toutes les façons, ils ne pourront jamais inverser la tendance.
Mais alors, Vous dites qu'il y a un problème avec la langue. Quelle langue parle-t-on ? Est-ce qu'on va parler anglais ?
Oui,
non. Alors, est-ce qu'on parle arabe ? Oui, non. Alors, on parle arabe, évidemment.
Bien entendu, on parle arabe, mais le débat sur l'identité a commencé effectivement par la question de la langue, et plus particulièrement dans la langue dans l'enseignement. C'est-à-dire, pendant très longtemps, dans cette région du monde, on a expliqué aux gens que pour accrocher la modernité, pour se développer, il fallait enseigner en langue anglaise. Alors, on a convoqué toutes les grandes écoles, les grandes universités, et ça a finalement contribué à créer une espèce de vertige identitaire. C'est qu'on se rend compte que les jeunes générations, les jeunes Émiratis aujourd'hui, parlent plus ou moins bien l'anglais, mais parlent moins bien l'arabe que leurs parents, et parfois ne le parlent pas du tout. Et du coup, on a une réaction conservatrice, des gens qui se disent « Mais attendez, où est-ce qu'on va ?» Parce que même si nous sommes déjà minoritaires dans notre propre pays, et les jeunes générations sont incapables de perpétuer un peu l'héritage de leurs parents, puisqu'elles sont incapables de comprendre un simple texte littéraire en langue arabe ou même de la poésie. Et ça, ça a créé des débats assez virulents dans la société émiratie. C'est tout de même une première, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt assez consensuel, ça se passait dans les coulisses. Là, on a eu un débat ouvert dans la presse, avec des prises de position de la part de princes de la famille royale qui disaient « l'anglais, c'est la modernité », puis d'autres qui répondaient « non, 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 attendez, nous sommes arabes, il n'est pas question de se laisser ensevelir par l'anglais ». Et puis on a eu ces déclarations où les gens disaient « attendez, si on continue comme ça, même l'appel du muezzin va se faire en langue anglaise ».
Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme fièvre nationale à Dubaï, par exemple, qui est cet énorme Disneyland ultra-libéral ?
Si vous êtes dubaïote, vous n'existez pas, on ne vous voit pas.
Voilà.
Il y a 110 à 150 nationalités. Voilà. Donc à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir, ce pays qui est en train de se développer, qui est en train de s'enrichir de plus en plus, il s'enrichit pourquoi et pour qui ? Et puis d'un autre côté, vous avez des gens à qui vous avez fait appel, qui sont là, parfois sur 3-4 générations, et qui, eux, disent « Mais nous, on va où ?»
Vous parlez des Indiens là, qui s'installent qui
Je finissent. Parle de tous les étrangers, effectivement.
Ouais.
Alors, on a cette image de cette région, on a beaucoup parlé, et à juste titre, des pauvres travailleurs qui sont des quasi-esclaves. Hein. On a vu tous ces chantiers, ces gens qui sont privés de droits, qui habitent dans des taudis, etc., qui ont contribué au building. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'il y a tout de même une grosse classe moyenne, des Indiens, des Pakistanais, mais aussi des Arabes, des gens qui vivent très bien, qui sont très bien payés, mais qui sont dans l'incertitude la plus totale par rapport à leur avenir. C'est-à-dire que eux aussi, ils peuvent être mis dehors du jour au lendemain. Et vous avez des familles qui sont présentes dans la région sur 3-4 générations, mais qui sont toujours étrangères et qui, elles aussi, commencent à revendiquer. On voit des familles, enfin des classes sociales les plus aisées parmi la communauté indienne, par exemple, qui commencent à dire, mais attendez, c'est notre pays aussi. On a contribué à le bâtir. On aimerait bien y vivre de manière définitive. Et ça, bien entendu, ce n'est pas fait pour apaiser les tensions qu'on a senti naître chez les nationaux, comme on les appelle, chez les locaux.
OK, merci beaucoup. Je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de, comment dirais-je, de compassion pour ces Émiratis.
De compassion, peut-être pas, mais...
Enfin, de considération, mais après tout, pourquoi pas, on doit...
Non, mais c'est très intéressant. Alors, une autre, je voudrais rebondir sur une de vos questions. Il y a, contrairement à une idée répandue, il y a des pauvres chez eux. Hein. Il y a des gens qui ne s'en sortent. Alors, si je prends le cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, aujourd'hui, vous avez des pauvres en Arabie Saoudite. Vous avez des chômeurs, vous avez des gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Et c'est ce qui, aujourd'hui, oblige les gouvernements locaux à vouloir nationaliser les emplois, à essayer d'obliger les gens à accepter des emplois de chauffeur de taxi ou d'employé de bureau pour faire sortir les gens du chômage pour que les tensions sociales diminuent. Parce que jusqu'à présent, effectivement, on a habitué les gens à avoir une espèce de manne pétrolière distribuée pendant que les étrangers étaient affectés aux postes les plus durs.
OK, merci. On continue avec Evelyne Pieler sur un, alors là c'est un papier, là on se retrouve à la maison on dirait sur France Inter puisque vous célébrez ce que l'on célèbre hein, au fait sur Albert Camus et le zouave du pont de l'Alma, tout ça sont des figures qui sont régulièrement célébrées dans notre pays et sur France Inter on a une historique journée Albert Camus, on a eu une journée Yves Saint-Laurent, d'ailleurs je vois que vous ne l'avez pas repéré parce que vous n'en parlez pas dans votre papier, mais sachez que le 18 juin prochain, nous aurons une journée, évidemment en hommage à l'appel du 18 juin. Alors vous vous intéressez à ces commémorations et vous remarquez quand même que c'est des commémorations toujours d'une personne. Et le plus souvent, une personne dépourvue de son contexte et c'est rarement des groupes qui sont ainsi célébrés dans l'Hexagone.
Oui, c'est vrai. En réalité, c'est remarquablement homogène là, ce qu'on a fait, parce que le travail sur les célébrations nationales, c'est aussi une réflexion sur l'identité nationale. C'est-à-dire, c'est initié comme ça. Il y a des cycles depuis 1974. Tous les ans, nous avons un cycle de célébration nationale pour trouver les grands inspirants. Ce qui, dans notre passé, constitue une partie de notre identité et vont nous permettre de trouver le vivre ensemble.
Très important l'expression.
C'est tout à fait
le vivre ensemble.
Essentiel. Donc, c'est quand même c'est une sorte d'enquête. Hein, c'est le travail qui a été mené parmi cette forêt de célébration nationale, c'était de voir petit à petit que ce qui était effectivement mis en avant, c'était des individus. C'est vraiment sur le côté. L'homme providentiel, absolument jamais l'action d'un peuple ou une action collective, ça, jamais. Ce qui se marque là d'une manière qui est comme un peu choc avec justement le 18 juin, C'est la brochure. Vous savez, il y a une brochure qui donne l'esprit dans lequel va être commémoré l'événement. Et où on nous dit que le général de Gaulle, c'est de son action que sont issues toutes les réformes ultérieures. Donc on se dit, ah bon, mais le CNR, ça a existé, le gouvernement provisoire, ça a existé, il n'en est absolument pas question. Donc c'est un travail qui est diffus, qui peut amuser, qui amusera d'ailleurs très certainement, je pense qu'il y a des commémorations qui amuseront, mais sur l'ensemble, c'est une action de combat idéologique, de façon très, très nette, il faut juste le sortir. Et je voudrais juste finir sur deux choses-là. D'une part, c'est évidemment assez captivant à regarder parce qu'on n'arrête pas de commémorer, précisément en un moment où quand même on diminue énormément les cours d'histoire. C'est-à-dire, on nous parle de devoir de mémoire, devoir de mémoire, bon, ce qui fait qu'on peut s'interroger sur ce que va être notre passé réellement. C'est-à-dire, on est en train de le réécrire gentiment pour nous montrer qu'au fond, il n'y a jamais besoin de révolution, il n'y a jamais besoin d'action un peu forte à plusieurs, qui se fait d'un homme inspiré et inspirant, de bonne volonté, et qu'on surmonte tous les conflits. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que l'an prochain, ça continue. Nous aurons un autre cycle de célébration nationale. Et nous savons déjà, je crois que ça va nous réjouir, mais peut nous amener à réfléchir quand même, que la première qui est prévue, c'est célébrer le premier concert de Johnny Hallyday. Oh.
Bravo. Médéric.
Ça va couper, moi, je... Je sais plus quoi faire.
Dernière chose quand même avant vos questions, ce mois-ci il y a un grand événement pour le monde diplomatique, le 29 mai à la Mutualité, vous le savez peut-être déjà, Noam Chomsky sera à Paris, il est reçu par le Collège de France et le samedi après-midi 29 mai, il y aura une conférence de Chomsky à la Mutualité organisée par le monde diplomatique et dans le numéro de ce mois-ci, il y a un article, un papier de Jacques Bouvray sur Noam Chomsky et ses calomniateurs. Est-ce que Serge Halimi peut nous dire deux mots sur ce papier qu'il n'a pas écrit ?
Non, l'objectif du dossier, c'est de faire découvrir Noam Chomsky à des gens qui ne le connaîtraient pas et aussi peut-être de le faire découvrir à travers des dimensions qui ont été moins exposées dans le monde diplomatique, puisque nous, quand on l'a publié un certain nombre de fois, c'était surtout pour nous parler de politique étrangère, de la politique des États-Unis, du Proche-Orient, de l'Amérique latine, de l'Extrême-Orient. Et là, on a essayé de privilégier d'autres dimensions de son œuvre qui concernent à la fois son rapport à la réforme, à la révolution, sa définition de l'anarchie, son analyse de tout ce qu'on appelle le post-moderne. Donc on a essayé de faire un ensemble qui rassemble tout ça et de reprendre un travail de Jacques Bouvresse qui situe Noam Chomsky par rapport à ceux qui l'ont beaucoup attaqué parce qu'il est difficile d'entendre parler de Noam Chomsky dans les grands médias sans que ce soit à travers toute une série d'imprécations. Donc Jacques Bouvresse cherche à rétablir un certain nombre de vérités concernant Noam Chomsky qu'il va lui-même rencontrer au Collège de France puisqu'ils participeront ensemble à une grande réunion, à un colloque qui traitera à la fois de Russell, d'Orwell et de Chomsky.
Merci à tous, merci aux musiciens étonnants Médéric Collignon, merci à Serge Halimi, Maurice Lemoine, Akram Belkaï, Tristan Coloma et Evelyne Pieler.
pour revenir sur la conférence que donnera Noam Chomsky ce 29 mai prochain et les conférences qu'il donnera au Collège de France. Là-bas, si j'y suis, s'associe à la présence évidemment de Noam Chomsky. On animera un certain nombre de rencontres et vous serez tenus évidemment, vous imaginez bien, au courant. Et puis si vous êtes dans la Gironde ce week-end, ne manquez pas les manifestivités, c'est-à-dire l'inauguration du nouvel estaminet à Uzest, le pays d'Antoine Chao. L'invité d'honneur en est ce soir le clarinettiste Louis Clavis à Uzest. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, la-bas.org. Vous pouvez réécouter beaucoup d'émissions de là-bas, si j'y suis. Uzest, c'est quand même aussi le pays de Bernard Luba, bien évidemment, à la technique. Aujourd'hui, Elisabeth Collet et Anne-Laure Cochet, c'est Cogné Nguyen et Raphaël Moutard qui ont réalisé cette émission avec la collaboration formidable des techniciens de Radio France, assistés d'Agnès Lebotte et Céline Rouzet, la chef du répondeur. Attends vos messages sur le répondeur de la basse JCU au 01 56 40 37 37.
Ceci est un message de Bleu Ciel d'EDF.
Qu'est-ce qu'on fait alors pour nos travaux de rénovation ?
Je sais pas, on n'en connaît aucun.
Et l'autre là ?
Lequel ?
Celui que